Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec Vincent Ducomé. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler de la fête de la laine, désormais célèbre sur cette antenne, puisqu'on cumule les sujets sur la laine et bien sûr sur la fête de la laine tous les ans, organisée par la Toison d'Art aux alentours de Cré. Allez, présentation encore de cette fameuse fête, Vincent.
Voilà, bon, c'est une fête fameuse et qui a lieu depuis je ne sais pas combien de temps, c'est dire si ça fait longtemps.
Ouais, presque 20 ans, j'allais dire.
Oh, oui, forcément, ouais. Voilà, mais donc toujours nouvelle aussi. Hein.
Mais... sans cesse renouvelée.
Ouais, parce qu'il y a, au fil du temps, il y a les mêmes exposants qui reviennent, mais il y en a toujours un petit peu des nouveaux aussi, puis qui représentent des fois des nouvelles tendances dans le... dans la filière, quoi.
Alors, vous avez fait notamment deux émissions là, superbes avec Louis dans le cadre du programme Biotope, où vous parliez de toute cette filière laine, de son renouveau ou alors de son retour peut-être. Qu'est-ce que tu mettrais en avant comme nouveauté, justement, comme renouveau de cette filière ?
Alors, il y a plusieurs nouveautés, bon, qui ne sont pas archi-nouvelles, hein, ça fait 2 ou 3 ans que les choses petit à petit prennent de l'importance. Il y a tout ce qui concerne les savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, par exemple, filent à la main, tricotent, font des teintures naturelles, font du feutre, se réapproprient donc des techniques très anciennes. Les pratiquent pour vendre des produits, mais aussi pour transmettre la technique aux gens qui ont envie de faire ça pour le plaisir, quoi.
C'est un peu le retour d'une sorte de micro-artisanat, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire des grosses, grosses productions. C'est plutôt des gens
seuls. C'est de l'artisanat, c'est pas plus micro que ça, mais c'est, oui, bien sûr que c'est, l'artisanat, c'est toujours à petite échelle, mais avec cette idée que les gens ont envie de se le réapproprier, pour, pas forcément pour gagner leur vie, mais pour le plaisir de manipuler la matière. Le plaisir de se retrouver avec des gens qui partagent ce plaisir-là, d'échanger des techniques. Et c'est quelque chose qui fonctionne un peu par réseau, un peu dans toute l'Europe, même dans le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui communiquent par Internet sur la question pour se filer des recettes ou pour acheter tel type de laine un peu particulière qui vient de tel pays.
Pourquoi cet engouement
Ouais, ben, je pense que c'est une lame de fond un peu, moi je le vois comme ça, hein. C'est-à-dire que dans la société il y a une tendance vers la technologie de très à la pointe avec le numérique, etc., des trucs qui concernent surtout des grandes masses de personnes. Et puis de l'autre côté, il y a aussi un besoin de, disons, de faire par soi-même avec des choses simples. Et avec des choses près de la nature, quoi. C'est aussi, ça vient d'une tendance à retrouver une manière de se nourrir saine, une manière de s'habiller simple, une manière de se déplacer sur ses deux jambes, tout ça, quoi. Tout ce qu'on peut voir, par exemple, à la fête à la semaine de l'écologie, des choses comme ça, quoi.
Et tu parlais de partage, de techniques, de mise en réseau comme ça entre, je vais dire, entre professionnels, entre artisans. Est-ce qu'il y a aussi couplé un désir de transmettre au public et donc création d'ateliers,
ce genre de choses ? Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, donc, dans la fête de la laine, c'est manifeste. Hein. Il y a des ateliers pour les enfants ou pour les adultes. Je vois qu'il y a un atelier pour faire du feutre. Il y a un atelier d'impression textile, un atelier de shibori. Alors le shibori, c'est de l'impression sur soie par des techniques de nouage. C'est japonais à l'origine. Il y a aussi du filage avec une association, la fibre textile, pédaler pour la paix. Donc c'est des gens qui filent la laine, toutes sortes de laine. et puis qui vendent des petites pelotes de laine au public. Et l'argent qui est collecté sert à des projets humanitaires un peu n'importe où dans le monde, quoi.
Alors avant qu'on rentre vraiment dans le détail de cette fête de la laine dont on donnera la date, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la toison d'art? Quel est son rôle en dehors de faire une fête annuelle?
Ah ben, la toison d'art, c'est un regroupement d'artisans et de producteurs, et parfois les deux. Enfin, les deux dans la même personne, je veux dire.
C'est ton cas par exemple? Tu produis
Ben, moi, je ne suis pas
et tu tentes
artisan.
de... Ah non.
Je suis pas artisan, je transforme rien du tout. Moi, j'élève des brebis, je récolte ma laine et je fais transformer ensuite par des professionnels. Et ensuite, je revends mes produits. Mais il y a des gens qui, par exemple, je pense à Mireille Four, qui élève ses chèvres mohair et qui tricote sa laine. Elle fait faire ses pelotes, mais après elle tricote sa laine et elle vend des vêtements. Donc ça, c'est le cas typique de quelqu'un qui fait un peu les deux. Il y a aussi à Glandage, là tout près de chez nous, Margot Jobé-Duval qui a des brebis et qui fait transformer sa laine et qui fait du tissage. Voilà, donc quelle était la question déjà?
Eh bien, nous décrivions la toison d'art
Ah oui, la
et
toison
son
d'art.
rôle.
Voilà, c'est assez varié. Ce qui regroupe tous ces gens-là, c'est l'amour du textile et du textile dans des matières naturelles. Ça peut être des artisans d'art, des gens qui font du tissage, qui ont appris ces techniques à fond, qui font ça. Uniquement ça, qui achète donc la laine à d'autres personnes, de la laine ou d'autres matières, hein, de la soie. Et il y a des gens qui font faire plutôt de la teinture végétale ou teinture pas végétale, en privilégiant quand même des teintures qui ne sont pas trop catastrophiques pour l'environnement. Il y a des producteurs, donc des producteurs de laine de brebis comme moi, ou alors de laine de ce qu'on appelle le mohair. Ça, c'est une laine de chèvre, la chèvre angora. Dans les chèvres, il y a aussi le cachemire. Alors, je ne crois pas qu'il y en aura cette année à la fête de la laine. C'est quand même très, très rare, le cachemire en France.
Oui, c'est plutôt tibétain par là-bas, tout ça.
Ouais, le mongol, tout ça.
Oui.
Par contre, l'alpaga, ça, on a dans le Diwa, par exemple. L'alpaga, lui, c'est un camélidé, c'est un lama, quoi, qui vient d'Amérique du Sud. Il y a aussi le lapin angora.
Le lapin, ouais.
Voilà, tout près de chez nous, à Vonnavé-la-Rochette. Enfin, bah voilà, il y a donc toutes sortes de gens. Il y a aussi des gens qui travaillent la soie, hein, je l'ai peut-être déjà dit, ou qui la teintent, ou qui. Voilà.
Oui, c'est pas forcément de la laine.
C'est pas forcément que de la laine, voilà. Et tous ces gens se sont regroupés donc il y a quelques dizaines d'années. Il y a ce gros événement d'hiver qui est un peu le point d'orgue de la saison. Qui fait partie un peu des fêtes de référence autour de la laine, comme par exemple à Felletin dans la Creuse au mois d'octobre. Enfin, il y a quelques moments forts comme ça en France. Mais il y a aussi, durant l'été, un marché de producteurs qui donc circule dans plein de petites villes du sud-est, on va dire, où tous ces artisans vont vendre leurs produits. Donc se regroupent voilà, entre 15, 25 stands environ, qui vont depuis la Haute-Savoie jusqu'au Var, en passant par la Lozère, quoi, en gros.
Alors tu parlais de cette notamment des teintures pardon, qui tentaient, enfin du moins d'essayer de respecter l'environnement. Est-ce que c'est une constante dans les adhérents de la toison d'art d'être plutôt porté vers
Ouais,
l'écologie, le bio?
il y a une tendance. L'écologie, c'est pas toujours. Bon, par exemple, les teintures, c'est pas toujours végétal, hein, mais dans les teintures chimiques, il y a des teintures qui peuvent être plus toxiques que d'autres, surtout dans les procédés de fabrication. Et donc, on essaye d'éviter. Enfin, après, ça, c'est une. Je dirais que c'est un esprit
Oui, c'est
qui.
pas mis en charte, par exemple, c'est
Voilà, non, c'est pas un engagement, quoi. Ouais. Ça n'existe pas, la toison d'art. La toison d'art, l'adhésion est libre. Voilà, il faut simplement que les membres de l'association soient d'accord pour intégrer un nouveau producteur, quoi. Notamment par rapport à la qualité de sa production, il faut quand même qu'il y ait une certaine tenue, quoi.
Parlons de cette fête, c'est le 7 et 8 février 2015, ça se passe à Cré, grand point d'orgue comme tu disais, il y a beaucoup beaucoup d'exposants, d'ateliers, etc. etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous mettre en avant pour nous allécher, à nous rendre?
Il y a une cinquantaine de stands, hein, je crois, ouais, 53. On est limité par la taille des locaux, en fait. On pourrait mettre beaucoup plus de monde parce que beaucoup de gens voudraient participer à la fête, mais ne peuvent pas.
C'est donc en intérieur, si on entend locaux.
Et oui, et bien chauffé en plus.
Ah, on n'a pas besoin de mettre son pull de laine.
Non.
Non.
Ouais, c'est l'espace Soubeyran à Cré, donc c'est deux grandes salles, quoi. En gros, donc il y a ces 50 et quelques stands de producteurs qui sont là présents pendant les 2 jours. Et puis, bien sûr, une restauration, bar dans un coin. Il y a des conférences et des ateliers d'initiation. Je
Pour parler de
détaille
ces
déjà.
producteurs, oui, on va détailler un tout petit peu parce que
Ouais.
quand même, si tu dis 53 et puis qu'en même temps c'est limité par la taille, donc il y a des refus, comment vous faites cette sélection?
Alors ça, c'est embarrassant toujours de refuser des gens. Alors jusqu'à présent, le principe a été de reprendre les gens qui avaient l'habitude de venir, sauf s'ils ne souhaitaient pas revenir, bien sûr. Donc c'est ça qui limite un peu le renouvellement, quoi. Mais dans la mesure du possible, on essaye quand même qu'il y ait toujours un petit peu de place pour les nouveaux.
Oui, c'est pas particulièrement un choix d'essayer de montrer le plus de techniques possible, le plus de différences, quoi.
Non, non,
Non.
non, il y a eu une époque, il y a de ça au moins plus de 10 ans, je pense, où il y avait une section purement artistique, avec des œuvres d'art faites en textile, des fois de grande taille, et puis de l'autre côté, plutôt des stands de producteurs. Et la partie purement artistique, elle a été un peu abandonnée parce qu'elle était. C'était difficile de faire les deux dans le même salon. Mais je vois que cette année, il y a des expositions d'art textile qui sont visiblement en relation avec la fête, qui se trouvent à Cré dans une galerie qui s'appelle la galerie Espace Liberté. Il y a donc deux expositions, une qui s'appelle Amphibre et l'autre Trame de soie. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus là-dessus. Il y a des animations aussi, c'est-à-dire qu'il y a un parc animalier avec
Ah.
voilà, des brebis, des chèvres.
On pourra se faire cracher dessus par là-bas.
Voilà. Louis toujours faire ainsi.
Lui toujours faire ainsi. C'est marrant parce qu'en plus, je l'ai relu hier soir même, cette BD. Nous sommes en train de citer Le génie des alpages, numéro 10, précisément, une BD d'Œufmur. Oui, le lama crache-t-il, tiens, pour de vrai?
Aucune idée.
T'es jamais fait cracher dessus par un lama?
Bah, personnellement, je ne fréquente pas beaucoup les lamas, enfin, en tout cas, pas ceux-là. Bon, je sais pas, s'ils le disent, c'est que ça doit être vrai.
En tout cas, c'est rigolo pour la BD.
Ouais.
Et donc, si on décrivait un petit peu assez succinctement ces stands.
Les stands. Alors, succinctement, je vais pas.
Par paquet, par exemple.
Alors, on va trouver des tisserands. On va trouver des gens qui font du feutre. Dans les tisserands, il y a des gens qui vont proposer des vêtements et puis d'autres des tissus plutôt vers le tissu d'ameublement ou le tissu de maison.
Tapis, tapisserie, tout ça, quoi. Ouais.
Ouais, et puis il y a donc du feutre. Le feutre, c'est souvent des vêtements ou des objets décoratifs. Il y a la soie, c'est carrément un peu un autre monde, là où c'est plutôt de la peinture sur soie en général. Il y a des stands de tricot, enfin donc des vêtements tricotés. Il y a des stands individuels. Et puis il y a des associations, comme l'association LAPAM, par exemple, qui vient des Alpes-Maritimes. Elle regroupe pas mal d'éleveurs de la région qui se sont regroupés pour faire transformer leur laine, différentes laines en fait, de différentes races, pardon. Donc on va trouver là-dessus des tapis, des vêtements, du feutre, différentes choses.
Ça me vient une question. Peut-on faire du feutre ou des tapis? Enfin, non, c'est pas dans le bon sens. Y a-t-il des laines particulières pour faire tel ou tel type de produit?
Oui,
Est-ce qu'on peut
tout
faire
à
du
fait.
feutre avec n'importe quelle laine?
On peut faire du feutre avec quasi n'importe quelle laine, mais on n'aura pas la même facilité. Il y a des laines qui feutrent plus facilement que d'autres, qui feutrent plus vite aussi. Et puis, on n'aura pas forcément tout à fait le même résultat non plus. Et au niveau de toutes les fabrications, c'est comme ça. Il y a des laines qui sont plus grossières. Enfin, on les classifie les laines, hein. Il y a des laines, notamment sur la finesse, hein, les grossières, les moyennes et les fines.
Donc ça, c'est la taille du poil.
Ouais, c'est la finesse du poil. Ça se chiffre en microns, donc des millièmes de millimètre. Donc ça va influer sur la douceur et sur la finesse du tissu. Il y a aussi la couleur, puisque dans les laines, il y a souvent beaucoup de blanc ou de proche du blanc, quoi. Mais on trouve aussi toute une gamme de gris, de marron, du plus clair au plus foncé. Ça, c'est dans toutes les laines présentes. Il y a des laines qui sont pour le matelas, par exemple, ou pour tout ce qui est rembourrage, parce qu'elles sont très gonflantes, mais pas forcément très faciles à filer. Après, on bascule dans le monde du mohair. Le mohair, donc, c'est le poil de chèvre. C'est un poil très fin, c'est très raffiné. Ça fait des tricots assez vaporeux, légers. On peut le teindre de plein de couleurs. C'est assez vif en général, ce qu'ils proposent, les gens qui vendent du mohair. Par contre, ceux qui font de l'alpaga travaillent plus avec les couleurs naturelles de leur laine, qui est blanc, beige, gris, marron. L'alpaga, j'y pense en même temps que le mohair parce que c'est pareil, c'est le même créneau, c'est une matière haut de gamme, quoi.
Et très fine,
Très
du coup.
fine.
En parlant de teinture, on teint aussi bien la laine blanche que la laine gris-noire.
Ben, forcément, la noire, on la teint pas tellement. Mais par exemple, la laine bisée que je produis, moi, elle est beige. Et en fait, elle prend assez bien la teinture. Ça donne pas exactement le résultat que sur une laine blanche, mais c'est joli aussi. C'est-à-dire qu'il y a la couleur de base de la laine qui compte, mais il y a aussi sa texture et sa. La laine est souvent. Il y a du gras sur la laine. Et
Ce qu'on
donc,
appelle le suif,
le
non,
suin, le
le
suin.
suin, pardon.
Et donc, il y a des laines plus ou moins grasses. Et des fois, on a des problèmes avec les laines très grasses pour faire accrocher la teinture là-dessus.
Il faut les laver du coup.
Toutes les laines doivent être lavées, mais les laines grasses sont difficiles à laver, quoi, plus difficiles à laver.
Et donc, ce qui sous-entend aussi que pour ces teintures, on doit trier, alors enlever tous les poils noirs, tous
Oui,
les.
bah oui, normalement. Mais après, voilà, tout dépend quelle perspective on a. C'est-à-dire que quand on travaille pour l'industrie, on veut un produit à grande échelle, très régulier, très uniforme. Et donc l'industrie, pour faire de la teinture, elle réclame une laine la plus blanche possible et la plus homogène possible. Mais un artisan, il va pouvoir tirer parti de zones un peu grises, un peu noires, etc. Il va pouvoir jouer avec ça. Au contraire, ça va faire la richesse de la matière. Et c'est là que c'est intéressant de travailler à l'échelle artisanale, en fait.
On va pouvoir sortir un petit col ou alors une petite partie du pull qui hop, changera un petit peu de couleur comme ça.
Voilà.
Et si on parlait de cet événement, la fête de la laine donc, qui a créé 7 et 8 février, comment tu décrirais ce public, toi qui y participes depuis nombreuses années aussi? Qui vient?
Plein de sortes de gens en fait. Il y a des gens qui viennent. C'est assez, je dirais, c'est du local élargi en majorité, je pense. Vallée du Rhône, Crétois, Diois, Isère, Vaucluse. Après, il y a des gens qui viennent carrément de plus loin. Hein. Un public de professionnels, de gens qui s'intéressent à ce que font les collègues, etc.
Donc ils viennent pour prendre
Prendre des
des
contacts,
contacts, voilà.
voir ce qui se fait. Il y a des gens qui sont Par exemple, moi, j'ai fréquenté la fête de la laine pendant des années alors que je ne produisais pas de la laine, parce que j'élevais des brebis et que la laine, ça me plaît. Donc, j'allais à la fête de la laine pour voir ce qu'on fait avec la laine que mes brebis portent sur le dos. Donc, il y a un peu des éleveurs, il y a du tout public aussi, donc des gens qui s'intéressent à la matière. Il y a des gens qui ont tricoté ou qui tricotent ou qui participent à des cafés tricot, je sais pas moi, en ville. Un peu ce qu'on disait au début, donc tous ces gens qui s'intéressent à la matière et qui ont envie de rencontrer des gens pour résoudre des problèmes pratiques. Des fois, il y a des gens qui viennent avec une question hyper précise et qui vont faire tous les stands pour avoir la réponse à leur question. Je me rappelle, il y a un monsieur, une fois, il est venu parce qu'il avait acheté un pullover il y a 25 ans et que son pull avait fini par s'user et qu'il voulait retrouver un pull le même. C'est pas évident à résoudre comme problème, mais voilà, on essaye.
La laine s'use rapidement.
La laine, ça dépend des laines et ça dépend comment on la porte et voilà, si on la respecte et qu'on l'entretient correctement, elle s'use. On peut porter des vêtements en laine pendant 10 ans, 20 ans. Hein.
Oui, j'avais l'impression que ça avait un côté un peu immuable, à part si on fait un gros trou dans son pull, bon, et encore, on peut le remailler.
Voilà, on peut raccommoder, ouais.
C'est quand même un peu plus durable. Bon, bah alors, voilà, 10, 15, 20 ans, c'est quand même un peu plus durable que la moindre fringue que nous portons aujourd'hui.
Ah ben ça c'est clair, ouais.
Sur ce public encore, est-ce que des professionnels viennent un peu comme ça, booker, chercher à revendre, comment ça se... L'artisanat est comme ça un peu recherché par des revendeurs particuliers là.
J'ai pas beaucoup l'impression, mais peut-être. Enfin, ça peut arriver, mais c'est pas encore. J'ai pas beaucoup vu ça, non.
Ouais. C'est pas encore une place qui est reconnue pour montrer vraiment une grande diversité de produits et
J'ai l'impression que pour les boutiques qui vendent de l'artisanat, fonctionnent pas tellement comme ça. Elles sont souvent sollicitées directement par les producteurs, en fait. Et je pense pas qu'ils aient beaucoup besoin de se déplacer eux-mêmes, quoi. Mais je peux me tromper. Après, ça m'est arrivé d'avoir quand même des gens qui passaient, notamment l'été. Parce que l'été, les marchés de la Toison d'Art, ils sont un peu. Il y a beaucoup de marchés d'artisanat l'été. Hein. Et donc, l'an dernier, il y a eu une visite de gens qui ont un magasin à L'Isle-sur-Sorgue et qui disaient qu'ils étaient stupéfaits. Ils passaient là par hasard, ils avaient vu la qualité de ce qui était proposé. Ils disaient, waouh, c'est vraiment extraordinaire. Nous, on aimerait bien vous accueillir pour une date, par exemple.
Ça
Voilà.
a un nouveau marché là-bas.
En fait, c'est des gens qui ont une boutique qui dépend plus ou moins d'un transformateur qui fait de la couverture, et il est connu au moins à l'échelon européen, quoi. Il fait un travail de super qualité, quoi.
Et dans cette même émission Biotope où vous parliez donc de la filière laine, il y avait cet exemple, et puis tu l'as cité, du fabricant de matelas, du rembourrage de matelas. Et donc c'était les établissements Lassalle qui étaient interviewés sur ce sujet. Il disait que c'était vraiment une clientèle très très particulière, un peu spécialisée, un peu rare, mais constante. Comment tu qualifierais la clientèle de la Toison d'Art, de ce festival-là, ou de la filière laine de manière un peu plus large?
Il y a des gens qui ont le portefeuille assez bien garni, parce que les pièces valent un certain prix quand même. Mais curieusement, on voit aussi des gens qui économisent sou après sou pour se payer un pull à une centaine d'euros. Des gens qui vivent avec un RSA ou voilà, une indemnité de chômage. Disons que je pense qu'il y a différentes veines, quoi. Il y a une clientèle de gens aisés qui apprécient les matières naturelles, le travail manuel, etc.
Et qui connaissent du coup déjà
Et qui
bien.
connaissent déjà, qui viennent régulièrement, qui apprécient le travail de tel ou tel artisan. Il y a aussi des gens, alors parmi les plus jeunes, on rencontre des gens, alors par contre, qui n'ont pas forcément beaucoup de sous, mais qui s'intéressent avec passion à la démarche. et qui donc vont peut-être ils vont acheter de temps en temps, mais peut-être moins que les autres. Mais ils vont beaucoup s'intéresser à la chose et puis de temps en temps ils vont faire un achat, quoi. L'idée, c'est aussi qu'on peut faire un achat comme ça une fois de temps en temps et puis voilà, on se fait un plaisir et puis il y a quelque chose qui va durer, qui a du sens.
Et pour toi qui fréquentes du coup l'événement depuis un certain temps, tu dirais que le public se renouvelle quand même, que c'est pas resté quelque chose d'un peu exclusif
Ouais, bien sûr qu'il se renouvelle. Ouais, il y a toutes les sections d'âge qui sont représentées, hein.
Nous parlons donc de la fête de la laine à créer ce week-end, les 7 et 8, dans l'espace Soubéran. Est-ce que nous aurions oublié quelque chose, Vincent?
Ouais, il y a deux grosses choses importantes. Il y a, bon, pour les enfants, il y a le manège à vélo, toujours. Ça fait des années que
Génialissime.
le Babs Clown pédale pour faire rigoler les enfants, et ça marche toujours très bien.
Ce qui permet de laisser les enfants dans un coin pendant qu'on
Voilà.
flâne.
Et puis, il y a une conférence, La face cachée de nos vêtements, qui sera proposée par Marie-Thérèse Chopin, qui s'occupe de l'association Atelier Laine d'Europe.
Alors quelques mots sur cette conférence quand même,
Ben
si
oui,
tu
alors
sais.
je ne connais pas le contenu exact, mais je suis adhérent aussi à l'association Atelier. Donc c'est une association qui regroupe beaucoup de gens qui sont passionnés par le textile et les laines naturelles. Et là, par contre, on parlait de charte tout à l'heure, et il y a une charte de l'atelier qui garantit que les vêtements proposés par les adhérents de cette association sont produits sans processus polluant et sans exploitation de main-d'œuvre.
Alors, on ne confond pas l'atelier avec l'atelier qui a dit ici.
Mais il y a plein de gens qui s'appellent l'atelier. En fait, c'est une association de liaison, en fait. Et donc, Marie-Thérèse, elle a beaucoup voyagé, elle est en relation avec des pays, plein de gens de plein de pays. Et donc, je pense qu'elle va parler de tout ce qu'on, toutes les horreurs qui existent dans le monde du textile courant. Et il y en a plein.
Oui, parler des exploitations de personnes déjà, d'enfants, de
Voilà,
pays entiers
de
même.
pays entiers, conditions de travail abominables, des salaires misérables qui font qu'on peut se payer des jeans à 10 euros. Qu'est-ce qu'il y a derrière un jean à 10 euros? Pourquoi ce vêtement coûte-t-il si peu cher?
Et tout d'un
Est-ce
coup,
que c'est vraiment normal?
voilà, et tout d'un coup, on comprend mieux pourquoi un pull en vaut 100 parfois.
Voilà. Il y a des gens qui font des jeans en France. Et ces jeans, ils ne valent pas 10 euros, c'est clair.
Cette conférence a-t-elle des places limitées? Faut-il se
Non, pas,
prévoir?
non, je
Non.
pense pas, je pense pas. Par contre, il n'y a pas d'horaire annoncé pour l'instant. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus là sur le... Non. Ah oui,
Bien.
il y a un truc aussi, il y a un espace bibliothèque. Donc ça, c'est tous les adhérents qui le souhaitent amènent des livres sur le textile et on peut les consulter sur place.
Donc forcément en lien. Hein. Et pourquoi pas la BD d'Öffmûr d'ailleurs?
Pourquoi pas?
Ah! Un site internet pour la toison d'art pour retrouver ce programme?
Un site internet, oui, certainement.
Évidemment.
Alors, il y a la toison d'art@orange.fr. Et puis, qu'est-ce que je vois? Un blog?
Oui.
La toison d'art.blogspirit.com. Et enfin, Facebook, la toison d'art, tout attaché.
Ah bah voilà, la totale.
La
Donc la
totale.
toison d'art est complètement connectée.
Complètement.
Ce qui n'est pas ton cas, Vincent.
Non, je reconnais.
La fête de la laine, les 7 et 8 février 2015, c'est à créer à l'espace Soubéran. Merci Vincent Ducomet pour cette présentation. Peut-être à l'année prochaine, ou alors peut-être que tu vas trouver quelqu'un d'autre pour nous l'envoyer. Tu nous disais ça hors antenne.
Ben voilà,
Ça pourrait être une
ça
idée.
peut changer. On est venu des fois à deux ou trois, peut-être qu'on refera ça.
C'est vrai. Et donc, ben, bonne fête et à très bientôt sur cette antenne.
Merci.
Interview. Okay, the bird. Interview.
L'interview du jour.
L'interview du jour.